Henri Mandras était un spécialiste de sociologie rurale. Il est mort en 2003 à l'âge de 76 ans. Son livre « La fin des paysans » parut audacieux lors de sa publication en 1967. La thèse de l'auteur était simple mais redoutable. Une civilisation millénaire avait disparu. La paysannerie en tant que mode de vie n'avait laissé que dans les campagnes françaises que des agriculteurs producteurs obéissant aux règles du marché et de la technique. Ce diagnostic scientifique n'a rien perdu de son actualité. La fin des paysans, Henri Mandras, extrait du chapitre 2, La terre, le travail et le temps. Le paysan de tradition cultivait le champ qu'il avait hérité et appris à cultiver de son père. De ce champ, il connaissait tous les plus infimes détails, contextures, profondeur de la couche arable, qui souvent variait d'un endroit à un autre, rochers, humidité, exposition, relief, etc. Résultat de longues années d'apprentissage, de travail et d'observation, cette connaissance qu'il était seul à avoir était pour lui le fondement de sa compétence d'agriculteur. Que le temps n'ait pas la même valeur à la campagne et en ville est un fait depuis longtemps remarqué. Gulliver eut grand-peine à expliquer aux Lilliputiens l'utilité de sa montre. Et puisqu'ils disaient qu'ils n'entreprenaient rien sans la consulter, ils en conclurent qu'elle était son dieu. Dans les campagnes, où l'horloge n'avait guère encore pénétré, le principal instrument de mesure du temps était le calendrier, qui fixait les dates essentielles de la vie agricole et religieuse, le plus souvent confondues. Ces anciens calendriers ne mesurent pas le temps comme les calendriers modernes, qui divisent l'année en mois et en jours d'égale longueur. Ils le rythment au moyen de fêtes et de dates critiques qui interrompent sa continuité. Et pour l'agriculteur dont le travail est commandé par les saisons et les conditions atmosphériques, la diffusion des calendriers modernes et de la notion du temps qu'ils traduisent n'a pas remplacé la notion ancienne. C'est en automne qu'on laboure, c'est en été qu'on moissonne, mais la saison peut être en avance ou en retard. On ne fait donc jamais deux années de suite le même travail à la même époque. Le salaire des domestiques et des journaliers est sans doute le meilleur indice de la valeur accordée au temps dans l'ancienne pratique agricole. C'est un des rares cas où la monnaie, unité toujours égale à elle-même, servait à mesurer le temps, unité variable. Le salaire d'un saisonnier qui se louait l'été de la Saint-Jean à la Toussaint était presque aussi élevé que le salaire d'un homme loué à l'année. Les quatre mois d'été avait presque la même valeur que l'année tout entière. La semaine se compose de journées de durée variable en fonction du jour solaire et de la somme de travail à accomplir. On dort beaucoup plus en hiver qu'en été, et les heures intenses de travail l'été contrastent avec le relatif désœuvrement de l'hiver. Autrefois, il était impossible de travailler de nuit dans les champs, car selon le proverbe grec, le jour, en se levant, jette un coup d'œil sur le travail fait la nuit et éclate de rire. Le lever et le coucher du soleil ne sont plus aujourd'hui les termes obligés de la journée à l'extérieur. Celle-ci peut être rallongée tard dans la nuit grâce aux phares des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. De même, à l'intérieur, l'électricité rend maintenant possible tous les travaux. Avec la motorisation, le temps technique et urbain a fait une intrusion définitive dans le travail agricole et y a introduit l'unité nouvelle de l'heure. Celle-ci a pénétré d'abord avec l'entrepreneur de battage qui se faisait payer à l'heure, et bientôt l'agriculteur motorisé qui venait labourer le champ de son voisin en fit autant, et maintenant les jeunes, soucieux de la rentabilité de leur tracteur ou de leur moissonneuse-batteuse, tiennent un carnet et notent soigneusement leurs heures de travail en même temps que les litres de carburant brûlés. Pour la première fois, le temps abstrait, constitué d'unités égales, s'immisce dans le travail agricole. De proche en proche, il tend à modifier l'échelle temporelle de tâches de plus en plus nombreuses. Le processus de remplacement d'un temps par un autre se manifeste à travers de nombreux indices facilement mesurables et s'offre ainsi à l'observation du sociologue dans une clarté exceptionnelle. Mais aucune enquête n'a été encore menée sur ce sujet. Le temps horaire existait déjà dans la vie campagnarde. Chaque cuisine de ferme s'enorgueillissait d'une horloge à long balancier et la plupart des agriculteurs avaient une montre en poche. D'après l'Institut français d'opinion publique, 47% des agriculteurs ne portaient pas de montre sur eux en 1953, 34% pour l'ensemble de la population. Dans la vie quotidienne, ces instruments servaient à préciser l'avancement de la journée plus qu'à fixer exactement le moment, le début ou la fin d'une activité. Témoin de la civilisation extérieure, il n'était employé à dire l'heure qu'à l'occasion des contacts avec cette civilisation, quand il faut être à l'heure. Envoyer les enfants à l'école, ne pas manquer le train ou l'autobus, assister à une réunion, etc. Dans ce dernier cas, si le rendez-vous était fixé par des voisins ou des gens du pays, chacun savait qu'il n'était pas nécessaire d'être ponctuel. Aujourd'hui, au contraire, les jeunes notamment veulent que les réunions, sans cesse plus nombreuses, se tiennent à l'heure pour ne pas perdre de temps. C'est un des indices qui révèle le passage du temps paysan au temps technicien. Autrefois, les moyens de transport étaient lents. On allait au bourg pour la journée ou la demi-journée, à la mairie, à la coopérative ou à l'école. La réunion commençait lorsque chacun était arrivé. On profitait du déplacement pour faire d'autres courses et pour parler avec les uns et les autres. Maintenant, on prend l'auto ou la moto pour arriver au début de la réunion et repartir immédiatement après si le travail presse. Cette différence était surprenante en 1950 pour l'enquêteur rural qui passait d'un village français à un village américain, et elle s'observe aujourd'hui dans chaque village français. Il ne faudrait cependant pas conclure de cette analyse que ce temps flottant et dormant, imprécis et lent, n'avait pas de valeur. Si les Méditerranéens, en particulier les Grecs, passent le temps, de même les paysans mexicains sont toujours prêts à remettre au lendemain ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. La plupart des paysans français, au contraire, n'admettent pas de perdre leur temps. Le temps est si étroitement lié à l'expérience du travail que le temps gaspillé, c'est du travail gaspillé, c'est paresse de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ces deux exemples suffisent à montrer combien il serait dangereux de se contenter d'une opposition simpliste entre deux types extrêmes. Dans chaque civilisation, la notion de temps est étroitement liée au système de valeurs et à l'organisation de la vie quotidienne. En France, il faudrait entreprendre une enquête région par région pour essayer d'expliquer pourquoi celles-ci ont accepté rapidement certains éléments du temps technicien, et pourquoi celles-là s'y sont montrées plus réfractaires.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. Ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Alors, entre le recensement de 1851 et le recensement de 1968, on a vu en France un phénomène de concentration de la population, un phénomène d'urbanisation de la population.
Valérie Jousseau est l'autrice du livre Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes paru aux éditions de l'Aube. Vous pouvez retrouver ces podcasts vidéo sur imaginela.fr.
En fait, c'est en 1968 que la population française est le plus concentrée sur le territoire. Depuis ce recensement de 1968, il y a eu la démocratisation de l'automobile et on a commencé à voir un redesserrement de la population dans l'espace. Ce redesserrement, il a commencé bien sûr à partir des endroits les plus concentrés, c'est-à-dire les villes. Entre 1968 et 1990, on va avoir un phénomène de périurbanisation. Depuis 1990, en fait, ce phénomène n'a pas de limite. La population continue de se diffuser dans l'espace. Il y a un redéploiement de la population dans l'espace. Avec l'expérience du Covid dans l'année 2020, on a vu par exemple des cadres supérieurs mettre leur famille à l'abri, faire du télétravail et vivre relativement avec bonheur le confinement. Mais ils ne sont pas les seuls sur la route du retour vers les campagnes. On va avoir des jeunes diplômés en quête de sens à leur vie. On va avoir des petits-fils, des arrière-petits-fils et petites-filles des paysans qui, lassés des promesses de la modernité, reviennent au pays après 2 ou 3 générations. On va avoir des gens en quête de nature. On a également des pauvres qui espèrent que la misère soit moins pénible au vert. On a également des survivalistes angoissés. Et donc chacun, tous ces gens projettent sur la campagne le rêve d'une vie meilleure, c'est-à-dire aujourd'hui d'une vie plus douce. Et donc on a là un phénomène historique, un renversement historique, c'est la fin du processus d'urbanisation. Aujourd'hui, les migrations ne sont plus orientées vers les villes, mais régionalement vers le sud et vers l'ouest de la France. On a là donc une bascule historique, on sort de l'ère de la modernité. Alors ce phénomène de désurbanisation, l'INSEE n'en parle pas. Statistiquement, il est quasiment invisible. Pourquoi ? Eh bien parce que ce processus ne rentre pas dans les cadres mentaux de l'ère de la modernité. En fait, notre époque disait « Le niveau de développement économique et social d'un pays est proportionnel à son taux d'urbanisation puisque ce sont les villes qui porte le développement. » Et donc il y a une sorte de seuil psychologique qui dit qu'un grand pays développé est un pays qui a une population urbaine au moins ou supérieure à 80%. Et donc vous comprenez que plus la population se desserre, plus la population se rediffuse dans l'espace, et bien pour rester dans cette logique psychologique, l'INSEE n'a pas d'autre solution au fond que d'augmenter la définition des pôles urbains et d'agrandir les aires urbaines pour éviter de se retrouver face à des statistiques de désurbanisation. Et donc c'est ainsi que par exemple qu'aujourd'hui les grands pôles urbains et les grandes aires urbaines couvrent la moitié du territoire national. Alors je vais vous prendre un exemple. Vous vous souvenez sans doute de la finale de la Coupe de France de football de 2018 qui opposait le PSG aux Herbiers. Alors pour tous les téléspectateurs, ça semblait évident, on avait d'un côté l'équipe d'une très grande ville de plusieurs millions d'habitants, Paris, qui s'opposait à une petite ville vendéenne de 16 000 habitants, les Herbiers. Eh bien, sachez que pour l'INSEE, Paris et les Herbiers sont dans la même catégorie statistique, tous les deux ce sont des grands pôles urbains. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'avec des si qu'on peut mettre Paris en bouteille, avec des seuils statistiques bien placés, on peut transformer des petites villes en grands pôles urbains et on peut maintenir l'illusion de la poursuite de l'urbanisation. Alors comment envisager l'aménagement des campagnes pour demain ? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre que on aménage son territoire comme on envisage la vie, le sens de la vie. Pour nos ancêtres paysans, le fondement économique de leur activité, de leur vie, c'était la production de nourriture. Et donc, d'une certaine façon, eux voyaient le monde comme un jardin. Ils aménageaient le monde comme un potager. Donc l'essentiel était dédié à l'agriculture. On économisait les terres agricoles, on visait la durabilité, la fertilité. C'était un labeur continuel, le retour continuel des saisons. Et on pourrait dire que la figure mythologique qui représente le plus l'aménagement des campagnes de l'ère paysanne, c'est un peu Sisyphe qui monte cette boule, qui redescend sans cesse, ce labeur renouvelé sans cesse à chaque saison. Pendant l'ère de la modernité, finalement, c'est l'époque des biens matériels, c'est l'ère de l'avoir. Et donc, nous envisagions le monde comme une usine à produire et à consommer. On pourrait dire que la figure mythologique associée à l'ère de la modernité, c'est Prométhée. Prométhée, il a volé le feu à Zeus, il l'a donné aux hommes, et les hommes, enivrés de cette puissance, se prennent pour des dieux eux-mêmes. Et donc, l'ère de la modernité voit le monde comme une usine, donc il faut que ce soit propre, il faut que ce soit fonctionnel. Et donc, on est dans le zonage, il y a des zones industrielles, des zones de loisirs, des zones de consommation, des zones résidentielles. C'est un monde de la puissance technique, c'est un monde de la standardisation des paysages. Donc on voit le monde comme une usine, à produire et à consommer. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui voyons-nous le monde pour commencer à envisager la concrétisation de cette vision dans l'aménagement? Ce que je crois, c'est que notre société est en train de sortir de cet imaginaire, de cet idéal de l'avoir. Qu'y a-t-il de plus grand que de se sentir bien matériellement? Eh bien, c'est de se sentir vivant. Et donc, les attentes de notre société sont en train de se reporter sur l'être. Être vivant, qu'est-ce que c'est? C'est ressentir la relation. Relation avec le monde, que ce soit les lieux de vie, les plantes, les animaux et relation aux autres. Et ce que je vous propose comme figure mythologique pour envisager l'aménagement de demain, c'est la figure de Orphée. Orphée, c'est un musicien et un poète. Avec sa lyre, il charmait aussi bien les animaux que les plantes et même les pierres. Orphée, c'est celui qui est persuadé de vivre au meilleur endroit du monde. Pour moi, l'aménagement de demain, c'est un aménagement qui va favoriser la vitalité, se sentir en vie. Et pour se sentir en vie, il faut être en relation. Donc l'aménagement orphique est un aménagement qui va viser notre relation au monde. Le monde devient comme un jardin d'agrément, un parc où nous aurions en harmonie avec les plantes, les animaux et les gens qui nous entourent.
Aujourd'hui, vous avez entendu un extrait du livre d'Henri Mandras, La fin des paysans, que vous pouvez retrouver en poche aux éditions Babel, la chanson Le Loir-et-Cher de Michel Delpech et un extrait des podcasts vidéo de Valérie Jousseaume à retrouver sur imaginela.fr. Merci à Rix pour l'habillage musical, à CFM, l'été de Vaour, l'Ada du Tarn, la Talvera et la 4C. Retrouvez toutes les infos du projet L'Avenir est à la campagne sur le site de la compagnie Les Funambules, lesfunambules.fr, une adresse mail pour nous contacter, avenircampagne@lesfunambules.fr, avenircampagne@lesfunambules.fr. À très bientôt, et n'oubliez pas, l'avenir est à la campagne.